Alors d'abord, bonjour à chacun, à chacune. Cet après-midi, le sujet proposé, c'est entretenir une relation quotidienne avec Dieu, un défi. Dans la première partie, on va plutôt voir la relation de Dieu avec l'homme, plutôt axée sur le côté de Dieu. Et puis, dans une deuxième partie, mon papa, Philippe Calin, traitera plutôt de la partie de la relation de l'homme avec Dieu par la prière, donc plutôt le côté de l'homme. Ce moment va être un peu guidé par ce verset « Nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier ». Je vous propose donc en premier de réfléchir sur qui est donc ce Dieu qui désire être en relation avec nous, parce que lui nous a aimé le premier, et puis donc après dans un deuxième temps, comment entrer en relation quotidienne avec notre Dieu par la prière, et plutôt nous l'aimer. Ça sera la deuxième partie. C'est un sujet donc qu'on a prévu, on a travaillé à l'avance, donc il va y avoir pas mal de versets, donc ils seront tous affichés sur l'écran, mais bien sûr, ça ne vous empêche pas d'ouvrir vos bibles, bien au contraire, pour lire tous ces versets. Donc si on est ici cet après-midi, en plein mois d'août, il commence à faire beau en plus, et que peut-être, nous croyons en Dieu, ou en tout cas, si nous ne croyons pas, nous nous posons de sérieuses questions, parce que en plein été, il y a peut-être autre chose à faire que de venir à une réunion en plein après-midi. Voilà, mais je crois que si on croit vraiment au grand Dieu des cieux et de la terre, celui qui a tout créé, celui qui a créé l'univers, qui nous a créé unique et particulier, je crois alors qu'il est normal qu'on ait ce désir de mieux le connaître. Et donc cette première partie, ça va être un peu une introduction à la deuxième partie, en réfléchissant un peu sur notre Dieu, notre grand Dieu. Et par rapport au sujet, je vais vous poser une question. Y a-t-il un seul chrétien salué au monde qui ne désire pas être en relation avec Dieu? Un seul chrétien qui ne soit pas convaincu de l'importance de la prière? Mais alors, pourquoi sommes-nous si enclins à consacrer vraiment du temps à Dieu? Imaginons un instant la réaction d'un fiancé qui découvre soudain que sa fiancée n'éprouve aucun plaisir avec lui. Quelle serait alors sa tristesse de la voir écourter, voire repousser les rendez-vous prévus entre eux? En constatant ses réticences et son peu d'empressement, le fiancé ne serait-il pas, raison de lui poser la question « Oui ou non, m'aimes-tu ?» Pensons-nous que Dieu puisse être satisfait de nous voir venir à lui à contre-cœur, sans joie, nous efforçant de le prier par devoir, parce qu'il faut prier. Lui aussi serait en droit de nous demander « Oui, oui, m'aimes-tu ?» Aimer le Seigneur, n'est-il pas le premier commandement, le plus grand de tous les commandements? Vous qui êtes parents, ce qui le sont, demandez à votre enfant d'écrire une longue lettre à une vieille tante qu'on ne voit jamais. Si vous avez de l'autorité, il risque de s'exécuter, mais s'il le fait, il le fera en râlant. Par contre, plus tard, quand il écrira un mail à sa fiancée, je ne pense pas qu'on aurait besoin de le signer. Rien n'est pesant quand on aime. Le devoir devient alors faveur, privilège. L'amour rend le fardeau léger et la prière sujet de joie. C'est pourquoi, cet après-midi, je vous propose en première partie quelques textes bibliques sur notre grand Dieu et d'en tirer quelques conclusions. Mais avant, réfléchissons encore quelques secondes. Qui est Dieu pour nous? Un Dieu qui ne s'intéresse qu'aux gens bien, à ceux qui vont à l'église tous les dimanches et aux réunions d'été au Brut, à ceux qui lisent leur Bible trois fois par jour ou qui prient tous les matins. Mais comment est réellement Dieu pour nous? Comme un père qui prend son plaisir à avoir une relation personnelle avec nous, avec chacun de nous, pour nous faire du bien, comme une tendre mère qui aime être avec nous malgré ce que nous sommes, qui s'intéresse même à nos petits tracas de tous les jours. Mais qui est donc vraiment ce Dieu de la vie? Et que nous veut-il vraiment? Pour répondre à ces questions, le mieux, je crois, c'est de laisser l'intéressé Dieu lui-même nous parler par sa parole. Alors pour cela, je vous propose de commencer par lire un premier texte dans Jérémie 32. Alors, le contexte de ce passage, c'est Dieu qui, le peuple en fait, a oublié Dieu, voire a abandonné Dieu et doit partir en exil. Et malgré tout cela, dans ce chapitre, on va voir un passage où Dieu ouvre son cœur. Comme aujourd'hui, nous faisons aussi partie du peuple de Dieu, spirituel, voilà. Et que les intentions de Dieu envers les hommes n'ont pas changé, et son cœur non plus, je crois que ces passages, on peut les prendre pour nous. Donc je propose de lire à partir du verset 38. C'est Dieu qui parle. « Et ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. » Et je leur donnerai un seul cœur et une seule voix pour me craindre tous les jours, pour leur bien, et le bien de leur fils après tout. Et je ferai avec eux une alliance éternelle, que je ne me retirerai point d'auprès d'eux pour leur faire bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de moi, et je me réjouirai en eux pour leur faire du bien. Et je les planterai dans ce pays en vérité de tout mon cœur et de toute mon âme. Je serai leur Dieu. Dieu veut être notre Dieu, notre Père. Avoir une relation personnelle avec nous. Nous avons été créés pour vivre dans l'intimité du Père, pour nous approcher de lui. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 18, « Et je vous serai pour Père, et vous, vous me serez pour Fils et pour Fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Dans le psaume 27, au verset 10, mon cœur a dit pour toi, chercher ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. Dieu nous invite à chercher sa face. Il réclame une relation avec nous. Mais concrètement, en vrai. Ça veut dire quoi, chercher sa face, avoir une relation avec lui? Je vous propose une petite illustration pour nous éclairer un peu. Supposez que je passe la soirée chez des amis. Alors que nous discutions ensemble dans le salon, soudain, plus d'électricité, la panne. Surpris, chacun se tait et attend que la lumière revienne. Mes yeux ont beau fouiller l'obscurité, je ne distingue plus le couple qui me reçoit. Aucun bruit n'est perçu, pas même les respirations que l'on semble retenir. Et quoique rien ne me permet de déceler la présence de mes amis, cette présence est pour moi une réalité. Je sais qu'ils sont là. Je les sais et non je les sens près de moi. Je peux donc reprendre ma conversation, même si la lumière n'est pas revenue. Est-il nécessaire de me représenter mes amis pour me savoir en leur présence? Et si le lendemain m'avait pris la fantaisie de les imaginer à côté de moi, aurait-il été pour autant en ma compagnie? Prêt à discuter avec moi? Chercher sa face, avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas forcément un exercice mystique basé sur le ressenti. C'est en premier être assuré de sa présence parce qu'il nous l'a promis. C'est vivre cette réalité de la foi. Non pas je sens, mais je sais que Dieu veut être mon Dieu. Un peu plus loin, dans le passage, mais tous les jours. Ce n'est pas de temps en temps, à la petite semaine, que Dieu veut avoir une relation avec nous. Mais quotidiennement, tous les jours. Matthieu 28, verset 20. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du ciel. Et je crois qu'on en reparlera de ce tous les jours dans la deuxième partie. Un peu plus loin dans le texte, nous voyons pour leur bien. Dieu veut notre bonheur. Deutéronome 30, verset 15. Et il dit à sa regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. Choisis la vie, afin que tu finisses toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en s'attachant à lui. Un peu plus loin, nous voyons, je ferai avec eux une alliance éternelle. Dieu veut faire avec nous une alliance éternelle. Pas seulement avoir une relation de tous les jours avec un engagement de 24 mois comme dans la téléphonie mobile. Non. Dieu nous propose une relation avec un forfait illimité en fréquence, quand on veut, et illimité dans le temps jusqu'à la fin de l'éternité. Dans Jean 10, versets 27 et 28, mes brebis écoutent ma voix, et moi, je les connais. Et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle, une alliance éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Un peu plus loin, dans le texte, nous voyons pour leur faire du bien. Le même texte nous dit que Dieu a comme projet de nous faire du bien, constamment du bien. C'est pas seulement de façon occasionnelle, ou à certains moments, c'est toujours pour leur faire du bien. Pas seulement pour leur bien, mais pour leur faire du bien. Dieu ne cessera jamais de nous faire du bien. Mais pourquoi? Parce qu'il l'a dit, et que son amour est sans condition. Pour que tout le monde comprenne bien, cela signifie qu'aujourd'hui, si nous aimons Dieu et notre prochain, c'est-à-dire nos parents, notre belle-mère, nos frères et sœurs, de tout notre être, de tout notre cœur. Si nous ne faisons pas d'excuses, alors Dieu nous aimera alors totalement. En revanche, si nous rejetons Dieu, si nous méprisons notre prochain, nos parents, si nous vivons dans la débauche, alors là, par contre, Dieu nous aimera aussi totalement. Et Dieu nous aimera de la même manière. L'amour de Dieu est inconditionnel. Parce que Dieu puise son amour, non pas dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on est, mais en lui-même. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Dans Jérémie 31, verset 3, l'Éternel m'est apparu de loin. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. Dieu nous aime sans condition. Parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Avant que j'existe, Dieu m'aimait totalement. Et je ne risquais pas de l'aider à m'aimer ou à ne pas m'aimer, puisque je n'étais pas là, je n'existais pas. Aujourd'hui, Dieu m'aime aussi totalement. Comme je suis, avec ce que j'ai fait, et souvent ce que je n'ai pas fait. Demain aussi, Dieu nous aimera totalement, quoi qu'il arrive. Dieu veut et va nous faire du bien parce qu'il nous aime. Un peu plus loin dans le texte, il est dit « Je me réjouirai en eux pour leur faire du bien. » Non seulement Dieu nous promet de nous faire du bien, mais en plus, il nous dit « Je me réjouirai en eux pour leur faire du bien. » Dans une autre traduction, c'est « Je prendrai plaisir à leur faire du bien. » Dieu ne nous bénit pas à contre-cœur. Ou parce qu'il est obligé de tenir ses promesses. Non. C'est son plaisir d'être en relation avec nous pour nous faire du bien. Dans Michée 7, verset 18 et 19, on peut dire « Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression du passé de son héritage. Il ne gardera pas à perpétuer sa colère parce qu'il prend son plaisir en la bonté. Il prend son plaisir en la bonté. » Verset 41, on voit « De tout mon cœur et de toute mon âme. » Dieu nous garantit qu'il se réjouit de nous faire du bien. Ok, d'accord, il se réjouit poliment de nous faire du bien. Comment il se réjouit? De tout son cœur et de toute son âme. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus grand, de plus fort dans tout l'univers que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, ce grand Dieu qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance, se réjouit à notre sujet de tout son cœur et de toute son âme. Il y a un verset dans Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera. Il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son Il s'égayera en toi avec chant de triomphe, ou dans vos traductions avec allégresse. Je vais relire ce passage de Jérémie 32, des intentions de Dieu à notre égard. Et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Et je leur donnerai un seul cœur et une seule voix pour me craindre tous les jours, pour leur bien et le bien de leur fils. Et je ferai avec eux une alliance éternelle, que je ne me retirerai point d'auprès d'eux pour leur faire des yeux. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de moi. Et je me réjouirai en eux pour leur faire du bien. Et je les planterai dans ce pays en vérité de tout mon cœur. Dieu prend plaisir de tout son cœur et de toute son âme à avoir une relation avec chacun de nous. Tous les jours, on nous fait du bien. Bien que nous venons de voir que Dieu nous aime, quoi que nous fassions, est-ce que quelque chose pourrait empêcher Dieu de vivre son désir de relation avec nous? Est-ce qu'il est possible, de pouvoir cultiver la présence du Seigneur si nous vivons dans le désordre, dans l'incrédulité, la mondanité, dans le refus de pardonner, dans le refus d'être délivré de l'offense? Un péché non abandonné peut-il nous tenir loin de notre Seigneur? Existe-t-il ce que j'appelle des voleurs de Dieu, des voleurs de notre relation avec Dieu? Je vous propose de lire dans Ésaïe 59. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Pour savoir si, comme moi, vous êtes parfois concerné par un voleur de Dieu bien particulier, je vous soumets quelques questions, réflexions. Sommes-nous constamment en train de ressasser les blessures du passé? Avons-nous déjà perdu tout espoir à cause de ce que quelqu'un nous a fait? Combattons-nous souvent des pensées de soupçon ou de méfiance? Sommes-nous régulièrement contraints de donner notre vision des faits? Je vous propose donc de réfléchir ensemble à ce voleur de Dieu qui s'appelle l'offense. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres voleurs de Dieu qui peuvent dégrader notre relation avec Dieu, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à celui-ci. Parce que dans ma vie, je le trouve assez efficace comme voleur. Et si l'offense, se sentir offensé, était l'arme cachée du diable pour affecter plus que régulièrement notre relation avec Dieu? L'offense, c'est un sujet à part entière, on n'a pas le temps de le traiter maintenant, juste un exemple, mais juste quelques pistes pour qu'on identifie un peu mieux ce voleur de Dieu si particulier. La définition de l'offense dans le dictionnaire, c'est: une parole, action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Une faute, un péché qui offense Dieu. Mais que dit la Bible de l'offense? Je vous propose de lire dans Luc 17, au verset 1. Or, il dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Le mot scandale, on l'a dans la note, dans la partie, signifie la partie d'un piège, le crochet ou l'appât est attaché. Il peut être aussi traduit par occasion de chute, pierre d'achoppement, voire offense. Ou par transgression. Quelqu'un de transgressé ou d'offensé, c'est quelqu'un à qui on a violé ses droits intimes, bafoué sa dignité, son honneur. On constate combien ces différentes expressions en français renferment la même signification. L'offense, un piège qui nous fait tomber. Jésus nous dit qu'il est impossible que des pièges ne soient pas tendus. Et je crois qu'être offensé est vraiment un piège que nous retrouvons souvent sur notre chemin de gens susceptibles. Ça fait quoi d'être blessé par l'offense? Je vous propose de lire dans le psaume 55, verset 10. Car ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé ou offensé, alors je l'aurais supporté. Ce n'est point celui qui me l'a, qui s'est élevé orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché de lui. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon conseiller, mon ami. Nous avions ensemble de douces communications et nous allions avec la foule dans la maison. Plus c'est quelqu'un de proche qui nous offense, plus ça nous fait mal. Par rapport à l'offense, il y a deux possibilités. Soit nous avons vraiment été traités injustement, soit nous croyons que nous avons été traités injustement. Et dans tous les cas, comment réagissons-nous? Proverbe 18, verset 19. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une défense. Et les querelles sont comme les verrous d'un palais. Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une défense. Quand nous sommes offensés, blessés, nous bâtissons autour de nous des murs de protection pour ne plus être. Voilà, dans ma famille, ma sœur qui toujours n'est pas gentille, elle me fait de blesse, je construis un mur de protection, au moins je suis protégée d'elle. Et puis, ce frère ou cette sœur à l'assemblée dit, je mets aussi un mur ici, là. Et puis mes voisins, je construis un mur. Et puis mes parents aussi, parce que depuis que je suis petit. Et on construit. Voilà. On construit aussi, parce qu'au cas où ça viendrait par en haut. Ah, on est bien. Ne plus offenser, ni les autres, ni Dieu. Et sans s'en rendre compte, pierre après pierre, nous construisons notre propre prison. Plus de relations avec les autres, plus de relations avec Dieu. On s'est fait prendre un piège. En voulant se protéger, on s'est emprisonné. Mais alors, comment sortir de cette forteresse? 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Pour détruire les forteresses, il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Et ça consiste en quoi, l'obéissance de Dieu, par rapport à l'offense? Je vous propose de lire dans Matthieu 5, verset 44 et 40. Mais moi, je dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort, pour vous offenser, et vous persécutent. En sorte que vous soyez les fils de votre Père, et dans les fils. Le verset dans Matthieu 6, verset 12. Alors, je vais le lire dans la version second 21. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sérieusement, combien sommes-nous ici à désirer que Dieu applique réellement ce verset? Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prenons l'exemple du Seigneur Jésus pour nous encourager à lutter. Je vous propose de lire un passage dans 1 Pierre 2, verset 19. Car c'est une chose digne de louange si quelqu'un, par conscience envers Dieu, supporte des afflictions, souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si souffletez pour avoir mal fait, vous l'endurez? Mais si en faisant le bien vous souffrez et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez les bras. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de faute, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge. Parfois, quand un voleur de Dieu s'introduit dans nos vies, quand nous venons de le voir avec nos chants, et qu'on persiste dans cet égarement, dans cette relation anormale avec Dieu, est-ce que nous nous sommes déjà posé la question « Et Dieu dans cette situation ? » Qu'en pense-t-il ? Ça lui fait quoi ? Certes, nous nous privons de quelque chose, nous-mêmes, mais Dieu, il est comment dans ce moment-là? Encore une fois, je vous propose de laisser la parole de Dieu nous dire comment Dieu est lorsque nous ne sommes plus dans sa dépendance, plus en relation avec lui. Et pour cela, je vous propose un passage dans Juges au chapitre 10. Et les filles d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, fais-nous selon tout ce qui sera bon à tes yeux, seulement nous te prions, délivre-nous ce jour-ci. Et les autels du milieu d'eux, les dieux étrangers, et servir l'Éternel et son âme, l'âme de Dieu, fut en peine de la misère d'Israël. Son âme fut en peine. L'âme de Dieu en peine de notre misère. Quand nous négligeons notre relation avec Dieu, et que nous sommes alors dans la misère, l'âme de Dieu est en peine. Son cœur est touché. Ce grand Dieu qui n'a pas besoin de nous est en peine quand nous voulons nous passer de lui. Un autre texte dans Osée 11, verset 7. Et mon peuple vient se détourner de moi, et on les appelle vers le Très-Haut, pas un peu de l'éclat. Que ferai-je de toi, Israël? Comment te livrerai-je, Israël? Comment ferai-je de toi comme Adma? Te rendrai-je tel que Très-Haut? Mon cœur est changé. Tout ensemble, mes compassions se sont réunies. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de la colère. Je ne désespérerai pas de nouveau, Israël, car je suis Dieu et non pas l'homme. Le Saint au milieu de toi, et je ne viendrai pas avec toi. Mon cœur est changé en moi. Tout ensemble, mes compassions se sont émues. Dans d'autres traductions, c'est dit, je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion, ou encore, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Quand on s'éloigne de Dieu, le cœur de Dieu est bouleversé. Comme le dit Ésaïe 63, au verset 9, dans toute leur détresse, là était en détresse. Et l'ange de sa face de la vie. Oui, je crois qu'on peut dire que le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu qu'on imagine dans son ciel, ce Dieu immatériel qui est esprit, qui est de toute éternité, qui est tout puissant, que rien ne peut troubler,
oui, ce Dieu-là, notre Dieu, est en détresse et nous souffrons de ne pas vivre cette vie de relation qu'il nous propose. Dieu en est bouleversé. Son cœur s'agite au-dedans de nous. Si j'ose dire, son cœur est tout sans dessus-dessous. Voilà ce qu'est pour notre Dieu quand on s'est éloigné de lui. À la fin de cette première partie, si vous voulez retenir quelque chose, c'est que Dieu nous aime d'un amour sans condition. Nous n'avons rien à faire pour être aimés de Dieu. Et aussi que notre Dieu désire une relation personnelle et vivante avec chacun de nous. Non seulement il a promis de nous faire du bien, mais en plus il prend son plaisir à nous faire du bien. De tout son cœur et de toute son âme. Et quand nous sommes victimes des voleurs de Dieu, comme l'offense par exemple, alors l'âme de Dieu est en paix. Son cœur est bouleversé. Il est tellement en détresse qu'il ne peut se réduire à nous laisser comme ça. Et à l'image du bon berger dans Osée 11, versets 3 et 4, et moi, j'ai enseigné à Israël à marcher. Il les a pris sur ses bras, ou dans une autre traduction, où je l'ai soutenu en le prenant par le bras, mais il ne savait pas. Je l'ai tiré avec des cordes d'homme, avec des liens d'amour, et j'étais pour eux comme ceux qui ôteraient le joug de dessus leur mâchoire et leur donneraient doucement à manger. Quand nous sommes égarés dans notre relation avec Dieu, et même si nous n'en sommes pas, Dieu nous enseigne à marcher. Il nous prend par le bras, par la main, nous porte dans ses bras pour nous guérir. Il nous tire avec des liens d'amour et nous donne doucement à manger. Dans Jude 24-25, en conclusion, or à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous ronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, mais avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles. Amen. Oh.